Gloire à Dieu. Le temps est venu maintenant de méditer sa parole, un moment important. Nous voulons être sérieux et être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Je vais vous parler d'un thème dont vous avez certainement déjà entendu parler, vous qui fréquentez les églises régulièrement, mais je dois dire que ça m'a moi-même interpellé de travailler sur ce thème, et je pense que ça peut vous interpeller aussi. Ce thème, c'est celui du contentement. Le contentement. Nous allons introduire ces moments et tout d'abord en donnant la définition du contentement que l'on trouve dans le dictionnaire Larousse. Un petit problème technique apparemment. Ça peut me suivre ou pas? C'est pas grave. On va trouver une solution. Si quelqu'un peut aller des mics, quelqu'un qui a l'habitude. La définition dans le dictionnaire Larousse, écoutez bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas les. Mais vous allez bien m'écouter. État, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Amen. Merci Seigneur, merci Chantal. Satisfaction vive et durable. Plaisir, joie. Ça vous parle ? Vous n'osez pas répondre. Comme synonyme, nous avons les mots suivants. Béatitude. Ah, ça coince à nouveau. Béatitude, bonheur, félicité, ravissement. Chantal, au secours. Je répète, béatitude, bonheur, félicité, ravissement. En fait, en lisant ces définitions et ces listes de synonymes, je me suis dit, mais en fait, ça parle du chrétien, en fait. Ça parle du disciple de Jésus. Non, vous ne croyez pas? Amen. Il y en a trois qui disent amen. Comme d'habitude, tous les autres, ils disent ouhou. Ouhou, dans quoi il veut nous embarquer, le pasteur, ce matin? Je répète, tous ces mots que nous voyons, ces définitions, nous parlent de ce que doit être un chrétien. Ce qui me touche le plus, c'est le sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Amen. Quel défi dans ce siècle marqué par l'insatisfaction permanente. On n'en a jamais assez. Bien sûr, toute la société a été construite pour nous entraîner à consommer. Donc en fait, des fois, vous recevez des publicités, et puis il y a une superbe offre, et là vous dites, waouh, il faut que j'achète. Mais en fait, si vous réfléchissez deux secondes, je dis, mais en fait, j'en ai pas besoin. C'est juste parce que c'est une bonne affaire qu'on veut l'acheter. Vous voyez où on en est? En fait, la société nous dérègle notre cerveau. Hein. Elle nous pousse à la consommation. Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons être ceux qui sont marqués par le contentement. La satisfaction de ce qu'on a. Amen. Ne désirant rien de plus. Est-ce que c'est le contentement qui te caractérise, toi, disciple de Christ? C'est ma question ce matin. Est-ce que c'est le... Je me la pose à moi aussi. On va lire le texte qui va servir de base à notre message, un texte que la plupart d'entre vous connaissent. Il se trouve dans l'Épître aux Philippiens, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle ainsi. Je précise d'ailleurs que ce texte est écrit par l'apôtre Paul alors qu'il est en prison. Et il est en prison parce qu'il est chrétien, il n'a rien fait de mal. Donc c'est profondément injuste. Et pourtant, voici ce qu'il dit. Je vous invite d'ailleurs à lire toute l'Épître aux Philippiens, où plusieurs fois il dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Le gars, il est en prison et il exhorte les autres à se réjouir. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et là, vous ne dites pas Amen. C'est quelque chose de grand là, qu'on entend. Hein. C'est quelque chose de très fort qu'on entend. Et on sait tout ça en théorie, mais dans la pratique, on a du mal. On va voir deux choses ce matin. La première, c'est que le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. On a toujours l'impression que dans la vie chrétienne, vous savez, vous êtes né de nouveau, vous claquez des doigts et vous devenez quelqu'un d'autre. Mais parfois, ça se passe. On a des délivrances, on a des changements radicaux qui sont opérés, pop, d'un seul coup, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais beaucoup de choses, beaucoup de changements dans nos vies se font par l'apprentissage. Dans ce texte, plusieurs fois, il est répété, j'ai appris, c'est l'apôtre Paul qui le dit. J'ai appris, il ne dit pas, j'ai reçu miraculeusement du jour au lendemain en une seconde. Il dit, j'ai appris. J'ai appris. Est-ce qu'on veut apprendre ? Le contentement, ça s'apprend. L'étymologie du verbe apprendre dans le verset, cela vient du grec mentano, qui signifie apprendre, être enseigné, apprendre par l'usage et la pratique. Avoir l'habitude de, vous voyez la richesse des mots grecs, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Et on va essayer de voir parce que moi ça m'interpelle. D'abord, vous savez, la première question qui est importante, c'est est-ce qu'on est enseignable ? Dans ma carrière professionnelle, avant d'être pasteur, j'ai eu l'occasion de former plusieurs personnes. En tant que pasteur aussi, je forme des gens. Je sais si quelqu'un va pouvoir progresser dans les premières minutes où j'ai des contacts avec elle. Avec la personne. On voit rapidement si la personne, elle est enseignable ou elle n'est pas enseignable. Quelqu'un qui n'est pas enseignable ne fera pas de progrès. Il pense déjà qu'il sait tout. Il pense. Alors personne ne vous dira, oh, arrêtez de me parler, ne m'enseignez pas, je sais tout. Mais dans son attitude, il ne prend pas l'enseignement que vous lui apportez. Et par contre, j'ai vu des gens qui partaient de très bas. Vous savez, quand vous recevez des gens pour être surveillant dans un collège, où il va falloir faire face à des élèves déchaînés, je ne sais pas si vous savez ce que c'est de surveiller une étude, mais ce n'est pas évident. Quand vous voyez des gens tout frêles, tout timides qui arrivent, vous dites « Oh là 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 !» Mais j'ai vu des gens comme ça apprendre, écouter les conseils et faire preuve d'autorité. Et j'ai vu des gens qui avaient une grande bouche, comme on dit, et ils sont repartis comme ils sont venus. Ils n'ont fait aucun progrès. Et c'était le bazar intégral dans leur étude. Est-ce qu'on est enseignable ? Ça, c'est la qualité de l'enfant de Dieu. Il est enseignable. Il est capable d'écouter. Il est capable d'apprendre. Donc, premier point, le contentement, ça s'apprend. Ça s'apprend par l'enseignement, d'abord. Et ensuite, on verra que ça s'apprend par l'usage et par la pratique. Paul lui-même enseigne, et on relit le, on relit pas le verset, mais juste avant le verset, les versets qu'on a lus, hein, je suis content de l'état où je me trouve, dans le même chapitre, si vous lisez juste avant, les versets 6 à 9, regardez ce que dit Paul. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, parce que souvent on s'arrête là, hein. Je confie mes problèmes au Seigneur et oh, d'un seul coup. Non. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées, pas de vos actes, vos pensées, ça commence là. Et regardez ce qu'il dit ensuite, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, parce qu'on apprend aussi en regardant les autres, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. En fait, Paul, vous savez d'où il vient, hein ? Il croyait qu'il savait tout. Il croyait tellement qu'il savait tout qu'il a même fait tuer des gens qui se réclamaient de celui qu'il adorait lui-même. Il était un disciple de Dieu. Il croyait fermement en Dieu. Et quand il a vu les gens croire en Jésus, il a cru qu'il fallait les tuer parce qu'ils blasphémaient Dieu. Vous vous rendez compte quand on n'est pas enseignable, jusqu'où ça peut aller? Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et à partir de là, il a ouvert son cœur. Et là, il a appris, il a été enseigné. Avant d'enseigner les autres, il a lui-même été enseigné. Et en fait, c'est cette chaîne qu'on veut produire. Hein. Moi qui étais enseigné, je veux enseigner les autres, etc. Et souvent, hein, il dit pas seulement parce que je vous ai dit, mais aussi parce que vous avez vu en moi. Et souvent, le meilleur des enseignements, c'est parce que les gens nous disent. Parce qu'on peut très bien donner des conseils aux gens, mais si on donne des conseils et que nous-mêmes, on ne les met pas en pratique. Hein. Mais c'est plus dans ce que nous sommes que les gens peuvent être enseignés. Et le contentement, si on est des gens qui vivent dans le contentement, ça va enseigner les autres. Ça va les encourager, ça va les exhorter. Amen. Le deuxième point, c'est par l'usage et la pratique. Alors Paul, il sait de quoi il parle. Regardez ce qu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, au chapitre 6. « Nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Waouh ! Là, il y a les paroles et il y a les actes. Parce que Paul, il a vécu toutes ces choses et il a mis en pratique ce qu'il dit. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez qu'à un moment donné, Paul et son compagnon Silas ont été arrêtés, ils ont été jetés en prison, ils ont été battus et ensuite on leur a mis les fers aux pieds. Alors qu'encore une fois, même chose que ce que je disais tout à l'heure, ils n'avaient rien fait à part parler de Jésus. Et regardez ce qui se passe. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Waouh! Ça enseigne. Pas besoin de suivre un enseignement, là. Vous voyez deux gars qui sont en prison alors qu'ils n'ont rien fait et qui sont en train de chanter des cantiques et rendre gloire à Dieu. Oh là là! Nous, on serait en train de maugréer en disant « Ah ben Seigneur, ça vaut le coup de te servir. » Super! Moi qui ai consacré ma vie, voilà ce qui m'arrive. Et on commence à regarder ceux qui ne sont pas chrétiens en disant « Ben eux, au moins, ils ne se prennent pas la tête. » Ça ne vous arrive jamais, ça. Le contentement, c'est d'être bien là où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous sommes. Pourquoi ? Parce que Jésus est avec nous. Et Paul et Silas savaient que Jésus était avec eux. Et ils ont bien fait, d'ailleurs. Parce qu'on sait ce qui se passe derrière. Ils vont être libérés miraculeusement de leur chaîne. Mais certains ont loué le Seigneur et n'ont pas été libérés. Hein. Mais ils continuent de louer le Seigneur quand même. Ils n'ont pas fait pour être libérés. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire. C'est pas seulement Paul, on se dit, ouais, mais quand même, là, Luc, il nous parle de Paul. Ah ouais, là, c'est... Non, mais Paul, c'était un homme. Hein. Mais il y avait Silas aussi avec lui, hein. Donc on va dire aussi Silas, oh non, Silas, ben non, pas dire ça. Si eux ont vécu ça, nous pouvons le vivre aussi. Le même esprit qui était en Paul et Silas est en nous, oui ou non? J'aurais voulu un grand amen de toute l'Église. Est-ce que le même esprit qui était en Paul et Silas est en nous? Amen. Gloire à Dieu. Je pense à Joseph aussi. Hein. Joseph, pendant tout son temps de souffrance, d'errance, qui est resté fidèle à Dieu avec un bon témoignage, et cela nous est prouvé, puisque Potiphar lui a donné la responsabilité de sa maison. Dès qu'il a été en prison, on lui a donné les responsabilités dans la prison. Ça veut dire qu'il avait un bon comportement, qu'il n'était pas en train de râler, de se plaindre ou de s'enfermer sur lui-même parce que le pauvre, il était victime d'injustice. Non, il continuait à rayonner. Le contentement nous permet de continuer à rayonner d'une manière surnaturelle alors que rien ne va. C'est à ça que tu es appelé, mon frère, ma sœur. Si tu n'es pas appelé à ce que tout soit lisse et tout aille bien dans ta vie, tu es appelé à rayonner même si tout va mal. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut te permettre de le faire, et seulement cette puissance, pas toi, bien sûr. Cet état d'esprit, elle a permis à Paul de rester un adorateur en esprit et en vérité, tout au long de sa vie, quelles que soient les circonstances qui l'entouraient. C'est ce que nous voulons faire. C'est le but que nous voulons atteindre. Être ses adorateurs en esprit et vérité, quoi qu'il arrive. Je vais vous poser une question. Quand on a appris quelque chose, est-ce qu'on le sait? C'est dur comme question. Est-ce que quand on a appris quelque chose, on le sait? Ben oui. Si j'ai appris quelque chose, je le sais. Si l'enfant sait sa récitation le matin à l'école, ça veut dire qu'il a appris. Et donc, il le sait. OK? S'il arrive et qu'il ne le sait pas, c'est qu'il n'a pas appris. Donc, quand on a appris quelque chose, on le sait. Et en fait, j'aimerais vous dire la deuxième partie. Le contentement, c'est savoir tout accepter. Savoir qu'on peut tout accepter. Qu'on en est capable. Si tu l'as appris, tu l'as appris ce matin de la part du Seigneur, peut-être tu l'avais jamais entendu, peut-être tu l'avais entendu des dizaines de fois, mais peut-être tu l'as entendu d'une manière particulière ce matin, maintenant tu le sais. Tu sais que tu es capable de tout accepter, tu le sais. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 12, on reprend ce qu'on a lu en introduction, Paul dit, j'ai appris, et après il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Il le sait. Il n'a plus besoin d'apprendre, maintenant il le sait. Il faut qu'on en arrive là. Pas toujours être en train d'apprendre, mais le savoir. Je le sais. C'est une conviction sur mon cœur. Amen. La vie chrétienne, c'est pas obligatoirement la pauvreté. Certains ont prêché la doctrine de la pauvreté. Alors si tu es chrétien, tu dois être avec des fringues toutes pourries. Avoir une maison toute pourrie, avoir juste ce qu'il faut à manger et te contenter de rien, c'est devenu une doctrine. Ça peut être le cas. Hein. Ça peut être le cas. Certains ont payé ce prix hein, pour servir le Seigneur. Le Seigneur lui-même l'a fait, Jésus. Ou certains te disent, si tu es chrétien, tu vas être riche. Ça, c'est la doctrine de la prospérité qui a cours aujourd'hui, de plus en plus. Si tu es chrétien, tu es riche, tu es en bonne santé. Tu ne peux pas être malade. Ce n'est pas possible. Ah, si jamais ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas la foi. Alors Paul, le pauvre, il n'avait vraiment pas la foi. Je ne sais pas pourquoi on écoute son enseignement, parce que franchement, ce n'est pas un bon exemple. Non, la vie chrétienne, elle est faite de toutes choses qui peuvent arriver à un être humain. Tu peux être pauvre, et si c'est ce que Dieu a décidé, alors tu dois être content. Tu es riche, si c'est Dieu qui l'a décidé, ça va bien se passer. Si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé, ça va mal se passer. On le verra tout à l'heure. La vie chrétienne, c'est d'accepter d'être riche ou d'être pauvre, d'être dans l'abondance ou dans la disette, l'apôtre Paul nous le dit. La vie chrétienne, en fait, c'est la foi que si on a remis sa vie entre les mains de Dieu, tout ce qui nous arrive est sous son contrôle. Il ne faut pas qu'on soit contradictoire. Ce qu'on dit, Seigneur, je t'ai remis ma vie, tu t'occupes de ma vie. Est-ce que vous croyez que quand vous dites ça au Seigneur, il le fait? Allô? Si vous dites sincèrement, Seigneur, ma vie, je te la remets, c'est pas genre, Seigneur, ma vie, je te la remets, mais je garde le volant. Hein. Je suis bien cramponné et, Seigneur, non, c'est vraiment, oh, je me mets au siège du passager, alors c'est de l'autre côté, pardon, et comme je vais des fois en Angleterre, ça me trouble. Je vais au siège du passager, je dis, vas-y, tu conduis, allez. C'est parfois pas agréable hein, de ne pas avoir le volant. Hein. Vous êtes là, ça vous est jamais arrivé d'appuyer sur le frein, même quand vous êtes passager? On aime mieux maîtriser, hein, conduire soi-même. Mais si vraiment tu laisses le volant à Jésus, alors tu dois vivre dans le contentement. Sinon, ça veut dire que tu dis, je t'ai laissé diriger ma vie, mais en fait, eh oh Seigneur, c'est pas comme ça. Tu sais pas faire, Seigneur. Comment on pourrait dire une chose pareille au Seigneur? Comment pourrait-on dire au Seigneur qu'il ne sait pas faire? Alors, d'accord, il y a des moments où on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Mais le prophète Ésaïe nous dit qu'entre notre intelligence et son intelligence, il y a une petite distance, hein, la terre et le ciel. Donc c'est normal qu'à des moments on ne comprenne pas. C'est tout à fait normal. Vous ne paniquez pas si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Hein, c'est juste normal. Faisons-lui confiance quand on ne comprend pas. Faisons-lui confiance. Ce n'est pas facile. Je suis un être humain comme vous. Croyez pas que je vous parle de choses. Je suis sur ma petite planète. Je suis dans ce même combat que vous pour à des moments accepter la volonté de Dieu que je ne comprends pas. Mais c'est tellement bon quand on accepte, quand on se contente et qu'on lâche et qu'on dit Seigneur, je te fais confiance. Ok, ça ne prend pas la direction que je voulais, mais Seigneur, je t'ai dit que je te remettais ma vie, donc de quoi je me plains? Si tu mets une barrière à ce moment-là, c'est peut-être qu'il la faut. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Alors pourquoi la barrière? Attention, hein, parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est l'opposition » ou « C'est l'opposition du diable ». Et il y en a d'autres qui disent « Ah, mais c'est Dieu qui te met une barrière ». Donc c'est difficile, hein, quand on a une barrière, de l'interpréter. Est-ce que c'est le diable qui s'oppose à la volonté de Dieu, parce que ça arrive? Ou est-ce que c'est Dieu qui me dit « Non, ne va pas par là ». Donc ça demande quoi? Bah, qu'on se tienne à genoux, hein. Et qu'on cherche Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Hein. Les gens qui viennent me voir en me disant « Pasteur, vous n'avez pas une parole pour moi ?» J'aime trop quand on vient me dire ça. Et moi, je leur dis les paroles, c'est à genoux auprès de Dieu que tu les reçois. C'est trop facile. Hein. On mène sa vie, on ne s'intéresse pas à Dieu, puis on vient devant un homme de Dieu, on lui dit « Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que Dieu veut ?» Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Alors parfois, Dieu peut parler au travers de quelqu'un, je ne dis pas le contraire. Mais la plupart du temps, c'est à genoux devant Dieu qu'on reçoit ses directions. Amen. La vie chrétienne, c'est croire, c'est savoir que Dieu dirige toutes choses. En être sûr, en être conscient, être cohérent avec ce qu'on dit. Pas seulement le dire, mais le vivre. Quand tout va bien, on le vit, mais quand tout va mal, on le vit moins. L'apôtre Paul, toujours lui, nous dit dans Romains 8, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc il n'est pas parlé de ceux qui ont une vie chrétienne bof, hein, partie de ceux qui sont vraiment engagés avec Dieu. Si tu es vraiment engagé avec Dieu, tu le sers de tout ton cœur, alors toute chose concourt à ton bien, c'est comme ça. Même les pires choses qui t'arrivent, ça, il en sortira du bien. Crois-le, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc si Dieu veut nous amener quelque part, il y aura des oppositions, ça ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas se faire comme on voulait, mais si Dieu veut nous y amener, ça se fera. Personne ne peut arrêter Dieu. Oui ou non? On le croit de tout notre cœur. Et pourtant, des fois, on est là en train de baisser la tête et dire « Ah non, mais c'est pas possible. » Non, si Dieu veut, ça va se faire. Alors peut-être qu'il y aura un problème de timing. Toi, tu veux tout de suite, mais peut-être que Dieu, il veut que tu attendes encore un peu. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34, Jésus, cette fois c'est Jésus qui nous parle, il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Les païens, c'est les non-croyants. « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Amen. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. En fait, la question que nous pose Jésus, c'est qu'est-ce que nous recherchons ? Le contentement, c'est lié à ce que nous recherchons. Si nous sommes dans la recherche des choses que nous offre ce monde, nous ne connaîtrons pas le contentement. C'est clair. Si vous cherchez ce que le monde offre, vous ne serez jamais content. Si vous cherchez le royaume de Dieu, vous serez pleinement satisfait en Jésus-Christ. Amen. Si vous cherchez le royaume de Dieu, vous serez pleinement satisfait. J'aimerais que plusieurs, on n'a pas le temps, mais puissent monter et témoigner le bien qu'on ressent quand on vient de faire la volonté de Dieu. Quand vous avez pu parler du Seigneur à quelqu'un que le Seigneur a mis sur votre route, vous repartez... Quand vous avez pu bénir, quand vous avez pu vous sentir utile pour le Seigneur, vous avez la conviction que vous avez fait ce que le Seigneur vous a demandé. Mais quel contentement! C'est ça le contentement en fait. Amen. Ce n'est pas les choses que nous offre ce monde. L'apôtre Paul nous le dit bien dans la première épître à Timothée au chapitre 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, d'accord? La piété c'est l'attachement à Dieu, c'est vivre... Chercher premièrement le royaume de Dieu, vivre pour Dieu, avoir que Dieu en tête, c'est ça la piété. Mais il dit la piété avec le contentement. La piété toute seule, c'est pas pareil. La piété avec le contentement. Et regardez ce qu'il ajoute. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. On peut rajouter aujourd'hui le logement. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez bien, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme, femme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche le Saint-Esprit. Hein. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est pas oh, on va lutter contre les démons, on va lutter contre les forces ténébreuses. Oh. Les gens, ils sont là, oh, combat. Oh. Ah, le combat de la foi, il faut que tu gardes la foi, il faut que tu gardes tes yeux tournés vers le ciel. La suite, c'est combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, je vis ma vie éternelle. N'attendez pas d'être mort pour la vivre. Vous la vivez déjà. Et si on veut vivre les prémices du ciel, il ne faut pas qu'on soit attaché aux choses du monde. Sinon, le ciel, ça ne va rien avoir avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc si c'est sur aujourd'hui que vous bâtissez vos choses, quand vous allez être au ciel, vous n'aurez plus rien de tout ça. Mais par contre, si vous vous approchez de Dieu, si vous cherchez le royaume de Dieu, tout ça, vous allez le garder au ciel. Ça va être la suite logique. Il est même parlé qu'il y aura des récompenses. Bon, j'y comprends pas grand-chose à ça, mais Seigneur, il est juste. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est à ça que tu as été appelé. À regarder la vie éternelle, pas à regarder la vie passagère que t'offre ce monde, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Attention à l'attachement aux richesses, attention à l'attachement aux choses matérielles. C'est ça qui vous mènera dans l'insatisfaction. C'est ça qui vous mènera dans des chemins détournés et vous ne saurez pas vous contenter de ce que vous avez. On voit le dilemme qu'a vécu le jeune homme riche quand Jésus l'a appelé. Ah, il était bien comme gars. Il observait tous les commandements. Un bon chrétien. Sauf que quand Jésus lui a dit « Tes richesses, tu les laisses tomber », il a dit « Ah non, ça, je peux pas. » Ah, que le Seigneur nous aide. Hein. Dans cette société occidentale hyper matérialiste, on a de quoi être interpellé. Conclusion. Dans son discours du chapitre 4, on en a lu des extraits, on a lu donc le contentement, on a lu ce qui était écrit avant, et maintenant on lit ce qui est écrit après, verset 13. Après avoir dit « Je suis content de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation », qu'est-ce que dit Paul au verset 13? « Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. » Alors là aussi, hein, vous savez, les versets, on les prend, on les sort. Et on dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, on est dans la galère ou quoi? Non, non, « Je puis tout par celui qui me fortifie », ça concerne le contentement. « Je peux vivre dans le contentement par celui qui me fortifie. » Amen. S'il n'y a pas Jésus-Christ en moi, pas de contentement. Vous allez toujours être en train de râler que vous n'avez pas quelque chose. Ou que l'autre, il a quelque chose que vous n'avez pas. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais si Christ est en nous, est-ce que vous voyez Jésus-Christ, lorsqu'il a été sur terre, est-ce que vous voyez dans les évangiles Jésus qui, à un moment donné, dit « Oh, c'est pas juste, ils ont ça et moi, j'ai pas. » Vous voyez Jésus dire ça, vous? On ne peut pas imaginer Jésus en train de dire un truc pareil. Ou dire « Oh, moi, je veux ça et je l'ai pas. » On ne peut pas imaginer Jésus faire ça. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Christ en moi. Amen. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, c'est toujours Paul qui nous parle. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Ce texte, il a été prêché par le missionnaire Christophe Sierra quand il est venu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez tout pleinement en lui. Donc vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous êtes tout le temps en train de chercher alors que vous avez déjà tout pleinement? Et il y a une phrase que je veux laisser sur votre cœur, et deux phrases que je veux laisser sur votre cœur. La première, c'est une phrase que Dieu a lui-même donnée à Paul, alors qu'il était dans un moment de difficulté au niveau de sa santé. Qu'est-ce que lui a dit le Saint-Esprit? Ma grâce te suffit. Ok? Est-ce que la grâce de Dieu te suffit, mon frère, ma sœur? Tu dois dire Amen, parce qu'il y a une phrase que Jésus a prononcée à la croix, et c'est celle-là que je veux que vous entendiez, que vous gardiez sur votre cœur. Tout est accompli. Tout est accompli. Et nous, on est toujours en train de demander à Dieu qu'il accomplisse des choses. Mais il a tout accompli. Donc à nous de vivre par la foi, à apprendre. Et une fois qu'on a appris, dire « je sais ». Et les discours, qu'est-ce qui est bon de dire « je sais », d'être convaincu? C'est que quand les discours du diable mensonger viennent, on dit « non, non, je sais ». Tu peux dire ce que tu veux, moi je sais. Je sais que Dieu me comble parfaitement. Je sais que si ça m'arrive, c'est qu'il y a un but. Donc je ne suis pas inquiet. Non, n'écoutez pas l'ennemi, dites-lui « je sais ». J'ai appris, je sais. Amen. On veut être ses disciples qui témoignent de la présence de Christ en eux parce qu'ils savent vivre dans le contentement. Pas qui ont de la bouche, qui parlent, mais qui montrent dans la difficulté, dans l'épreuve, qu'ils sont toujours rayonnants, joyeux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie ensemble. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je crois que le Saint-Esprit veut faire son œuvre maintenant, en chacun de nos cœurs. Il y a certainement un grand écart entre ce que certains vivent au milieu de nous et le fait de se contenter. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie personnelle qui fait que tu n'arrives pas à être satisfait, tu es en demande vis-à-vis de Dieu, tu as l'impression qu'il ne te donne pas ce que tu as besoin. Peut-être ça concerne la maladie, ta maladie, peut-être ça concerne la maladie d'un proche. Peut-être ça concerne le fait que dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas au Seigneur. Et tu regardes les familles où tout le monde est au Seigneur et tu dis, pourquoi moi non? Peut-être c'est par rapport à ta situation financière. Tu vois les autres arriver avec des belles voitures, qui ont leur maison, et toi tu galères, etc. On peut faire une grande liste. J'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'aucune de ces situations ne peut empêcher que tu connaisses le contentement que Dieu veut t'accorder. Parce que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que sa grâce te suffit. C'est pas une preuve de mépris quand Dieu te dit de telles choses. Il connaît ta situation, il connaît ta souffrance, il connaît les combats intérieurs que tu mènes. Il est bien plus au courant que toi même de ta situation. Et il souffre lui aussi avec toi. Mais il sait que si tu apprends à vivre dans le contentement, au lieu du trouble, au lieu de l'anxiété, au lieu des combats, des gesticulations, il y aura la paix. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Cette paix dont nous avons lu que Paul dit qu'elle surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée à ce que ton cerveau perçoit, les informations que ton cerveau reçoit. Elle est liée au fait que tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu dirige ta vie. Tu sais que rien n'échappe à son contrôle. Tu sais que s'il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Tu sais ces choses. Alors sois content, sois satisfait au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle fasse son effet dans nos cœurs. J'en ai besoin moi aussi, de cet esprit de Dieu qui me conduit vers le contentement, d'accepter toutes les situations par lesquelles tu me fais passer. Oh, je te rends gloire et je te bénis, Seigneur, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, même si c'était dur, j'ai baissé les genoux devant toi et j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Alors tu as béni, tu m'as jamais laissé tomber, jamais abandonné. À toi soit la gloire. Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, parce que nous connaissons le seul qui peut pleinement nous satisfaire. Alléluia. Alors est-ce que nous allons être comme les autres qui ne te connaissent pas? Non, Seigneur. On veut être pleinement satisfait en toi. À toi soit la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur est bon, il nous parle, il nous interpelle au travers de sa parole.